Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. J'ai rencontré Bruno il y a quelques années. C'est un voisin du quartier avec qui j'ai sympathisé. Bruno a 47 ans, il est kiné et vit à Montpellier depuis son enfance. Je rejoins Bruno dans l'appartement qu'il a acheté dans un vieux quartier du centre-ville il y a une quinzaine d'années, où il vit avec ses deux enfants, une semaine sur deux, en garde alternée. Bruno appartient au cluster des sociaux-républicains, un groupe qui tend vers la modération et au rejet des extrêmes. Attachés à l'Union européenne, ils ont une attitude plutôt conservatrice sur les questions culturelles et prônent une politique économique sociale et réaliste. Ils font partie des groupes qui se sont sentis les plus éloignés du mouvement des Gilets jaunes. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête dans ce cluster, réunissant 40% des voix. Il avait devancé Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, qui avaient réuni 20 et 15% des suffrages au sein de ce groupe.
Ça va Bruno ?
Et toi ?
Je commence toujours l'entretien en posant la question de manière assez simple. D'où est-ce que tu viens ? Où est-ce que tu as grandi et qui étaient tes parents ?
Montpelliérain. Pas né à Montpellier, mais arrivé à 6 mois, donc je me considère comme Montpelliérain. De parents, pas Montpelliérain, mais du Puy-en-Velay de Perpignan, donc rencontrés, ils se sont rencontrés récemment à Montpellier. Mais...
Ils venaient de quel milieu, tes parents ?
Mon père, fils de gendarme, et ma mère, fille de représentant de commerce. Voilà. Mon père voyageant beaucoup, notamment en France, et puis ma mère étant ponote du Puy-en-Velay, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, moi, Montpelliérain, pas né à Montpellier, né en Haute-Savoie, de par le parcours de mes parents, mais arrivé à 6 mois ici, donc Montpelliérain, faisant toutes mes études ici, du la maternelle jusqu'au lycée, et même mes quelques premières années de fac, où j'ai fait la fac de STAPS, l'UFR STAPS à Montpellier, jusqu'en licence.
Tu peux m'en dire un peu plus sur ton enfance ? Vous étiez combien à la maison ?
Moi, j'ai deux sœurs, une grande, une petite. Dans un premier temps, dans un appartement, l'immeuble pas très loin d'ici, donc on est à Boutonnet. Hein. Et puis après, en villa...
Tu étais dans quel quartier ?
Boutonnet, enfin, avenue de la Justice. Et puis après, dans une maison vers l'Aigle Longue.
Ouais. Donc, tu as passé plutôt ton adolescence
à l'Aigle Longue.
À l'Aigle Longue. Ouais. Ta scolarité à l'école là,
primaire.
Comment ça s'est passé ?
Bien, voilà, en école publique, et puis après collège Joffre et lycée Joffre. Bon, une scolarité heureuse et moyenne, quoi, voilà.
Ça s'est passé comment, scolairement ?
De façon, ouais, enfin, un élève lambda peut mieux faire, a des capacités, c'est chouette, c'est bien. Non, là, c'est pas bien, enfin, voilà.
Et du coup, après le bac ?
Une année de CREPS pour passer un brevet d'État, en l'occurrence judo, et puis après l'UFR STAPS, pendant 3 ans. Et puis j'ai bifurqué vers kiné, je suis parti à Lyon.
Donc là, c'est la première fois que tu quittes...
Montpellier.
À la vingtaine à peu près.
Toc-toc-toc, 22 ou 23 ans.
Et à Lyon, du coup, ça a duré...
4 ans. Donc là, j'étais en colocation avec des copains de Montpellier. On revenait régulièrement, ouais. Parce qu'on était licenciés chacun dans d'un club à Montpellier.
T'es resté attaché à ta ville ?
Ah ouais, Montpellier, oui, toujours. Ouais. Ouais. Même si j'en suis parti après plus tard, il y a une certaine accroche et beaucoup de copains là. Ouais, ouais.
Alors du coup, après, donc t'es diplômé, tu sors de ton école de kiné, t'es diplômé et
je reviens à Montpellier.
D'accord.
Et là, j'exerce beaucoup de remplacements. Et puis après, de façon un peu... Ouais, je m'installe, mais en nomade.
Et ton chemin de vie pendant ce temps-là, du coup ?
Ben, en couple, avec une... qui n'était pas encore sur Montpellier, qui était sur en Angleterre. Donc des allers-retours là-bas, et puis elle aussi. Et puis en 2006, on s'installe à Montpellier. On a une enfant en 2008. Et en 2010, on s'en va on part par rapport à son boulot pendant
Ouais.
6 ans. Elle travaillait, elle est chercheuse. Et pour son travail, on part en Asie pendant 6 ans.
Ouais, là, c'est le grand départ,
Voilà.
passer la trentaine
Ouais.
avec les enfants.
Avec un enfant. Et on revient avec un deuxième qu'on a fait là-bas, quoi.
Et c'était où?
C'était à Hanoï, au Vietnam.
Ces années au Vietnam, enfin, ça a été important pour toi, ça a
Ah ouais,
été.
super, ouais.
Ouais.
Oui, super. J'étais l'homme d'expat. On parle souvent de femme d'expat. Moi, j'étais l'homme d'expat.
T'as exercé ou pas là-bas?
Oui, après, eh ben oui, moi, mon but, c'était de travailler. Alors, est-ce que ça aurait été, si tu étais dans ma profession, j'en savais rien. J'aurais pu être loueur de mobylette. Enfin, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Et puis, de fil en aiguille, ouais, je suis rentré au lycée français de Hanoï, à faire du périscolaire en sport, judo notamment. Et puis après, j'ai fait quelques remplats. De par mon parcours de STAPS, j'ai fait quelques remplacements d'instit, un peu de remplacement au collège et lycée dans prof de sport, donc un peu mouchou. Et puis après, j'ai réussi à rentrer dans une clinique privée en tant que kiné-ostéo. Voilà, donc j'étais en mi-temps. C'était chouette, quoi. C'est là où j'ai fait mon tissu social là-bas.
Donc quand vous êtes rentré du Vietnam, après tu t'es séparé
C'est ça,
de la mère de tes enfants.
ouais. Un retour un peu compliqué.
Vous avez une garde alternée, c'est ça?
Tout à fait, une semaine sur deux avec les enfants, et ça se passe super bien.
Je reviens un petit peu en arrière, je pose toujours la même question aux personnes que j'interroge. Je leur demande si ils ont le sentiment d'avoir une enfance heureuse, une enfance difficile, certaines fois même une enfance malheureuse. Comment tu la qualifierais,
Oh
toi?
non, heureuse,
Ouais.
heureuse. Il y a eu des périodes peut-être un peu critiques, mais qui sont les affres de l'adolescence, quoi. Enfin voilà.
Ouais. Donc aujourd'hui, là, t'as quel âge?
47.
47 ans. Donc ça fait 25 ans que tu es kiné. C'est
Ouais,
à
en
peu près.
gros, ouais. Là, je suis maintenant sur un cabinet à Moguio, avec un avis de cette période-là de
De la
collège-lycée.
fac. À
Collège-lycée,
collège-lycée?
ouais.
Ah ouais, carrément.
Et non, après, qu'est-ce qu'on fait? Ben non, non, oui, avec beaucoup plus de recul. Est-ce que je finirai kiné? Je ne sais pas. Parce que ça demande pas mal de. Comment dirais-je? Ne pas pouvoir répondre à certains mots, c'est compliqué. Mon empathie, et mes... enfin, ça me trouble de plus en plus de
C'est un peu
temps en
compliqué
temps.
à vivre.
Ouais, les maladies chroniques dégénératives, et puis la vieillesse aussi, c'est de la voir, de la côtoyer et d'accompagner. Et à un moment donné, est-ce que j'aurai encore cette capacité? Mon cerveau a sa capacité à prendre du recul, je ne sais pas.
Quels sont les médias que tu as l'habitude de regarder, de lire? Comment est-ce que tu t'informes, en gros, et à quelle fréquence?
Moi, j'aime beaucoup le papier. Je lis régulièrement, enfin toutes les semaines, le cas enchaîné. Et puis après, prends pas mal de photos d'articles chez des patients qui sont abonnés au Monde, Figaro, Le Point, Nouvel Obs et tout. Des fois, je prends photo pour le lire.
Quel que soit le média.
Ouais, quel que soit le titre.
Et les médias audiovisuels.
Oui, bah, on y est obligé maintenant. Enfin, ils sont partout, donc.
T'es connecté sur les réseaux sociaux pas mal?
Pas du tout,
Pas du tout.
zéro. Je connais pas. Aucune interface, je sais même pas comment c'est, l'interface Facebook, machin. J'y suis jamais allé.
Et la radio ou la télé?
Radio, très rarement. Ouais, je suis pas. Comme je fais de la moto, la radio, je pense que c'est vraiment quand je suis dans la voiture. Mais sinon, à la maison, non. Et télé, non, les médias télé, jamais. Je les vois trop, c'est chez mes patients, c'est affreux.
Quel est le rapport de la politique dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé jeune déjà ou
Non, alors,
pas?
non, moi j'ai toujours été admiratif des militants. Quand j'étais plus jeune, là, dans les 17, 18, 19 ans, là, ceux qui commençaient à militer au lycée. Et puis j'avais notamment une copine qui, elle, militait au MJS,
Jeune
mauvais.
socialiste?
Ouais. Et je trouvais ça admirable, quoi. Quand elle disait, ah oh ben non, je peux pas, il faut que j'ai une réunion, j'ai des trucs. Enfin, je trouvais ça, waouh. Donc, quel que soit le bord politique, quand je vois des gens qui s'activent autour d'un parti ou d'une cause, je trouvais ça admirable. Aujourd'hui, je trouve ça toujours admirable.
Tes parents, c'est des gens qui étaient intéressés à la politique, c'est des gens qui votent.
Oui, surtout mon père, qui, sur les fins de ses carrières, était plutôt syndicaliste.
Il parlait politique à table, par exemple? Vous en
Non, non,
parliez?
non, non, non. Mais par contre, il en avait marre de la gestion des grands groupes pour lesquels il en avait trahi, pour lesquels il travaillait, quoi. Enfin, voilà.
Quand tu as eu 18 ans, en gros, quand tu as été en âge de voter, est-ce que tes parents vous ont dit c'est important de voter ou
Ouais, j'ai
pas?
pas le souvenir, mais je pense que de fait, oui. Oui, parce que moi, je me souviens petit d'être allé voir des dépouillements où mon père était, enfin voilà, ou des choses comme ça.
Est-ce que ça tu dirais que ça t'intéresse, t'es intéressé par la politique, tu la regardes, tu la suis?
Je, comme quelqu'un qui aime pas le foot et qui va regarder la Coupe du Monde, quoi. Enfin, là, on est de fait, on est obligé par rapport au présidentiel, mais peut-être un peu plus intéressé par les locales, notamment les municipales. Mais c'est important, non, c'est certain, c'est important.
Est-ce que le clivage gauche-droite, il signifie quelque chose pour toi?
Ah, peut-être qu'il y a encore deux présidentielles, oui, mais là, aujourd'hui, c'est tellement... ça devient compliqué, quoi. Enfin, puis on le voit, quoi, il y a l'explosion des deux gros, trois gros partis. Enfin, non, c'est compliqué, c'est compliqué.
Toi, tu te définirais comment politiquement, si tu devais te définir?
Plutôt des positionnements, oui, un peu plus à gauche que...
Tu dirais, du coup, tu dirais gauche modérée?
Oui, voilà, je pense, oui, modérée.
Toi, t'es né en quelle année?
75.
75, première élection présidentielle, ça doit être 95. Est-ce que tu te souviens pour qui t'avais voté?
Oh ben, ça a dû être Jospin, oui.
Ouais.
En plus, je pense que c'était quelqu'un qui était, dans mes souvenirs, quelqu'un qui me correspondait bien.
En 2002, c'est...
Bah là, c'est le Rafi. C'est,
ah
là,
ouais.
C'est, là, c'est le... Il y avait eu une montée de boucliers et puis beaucoup de monde dans la rue, quoi. Enfin, donc là, c'était particulier.
Vous avez participé aux manifestations, là?
On était descendus, mais alors, moi, de façon très calme. Hein, enfin. Mais après, oui, j'étais allé mettre un bulletin de vote Chirac. Oui, ça,
ouais.
C'était...
Après, en 2007, le deuxième tour, c'est...
C'est Ségolène, quoi.
Ouais.
Oui.
Okay. 2012, du coup, c'est Hollande-Sarkozy.
Donc là, nous, on est au Vietnam, donc c'était Hollande.
2017, tu te rappelles de ton vote du premier tour?
Ouais. Ah bon.
C'était un vote de conviction?
Non, j'aimais bien le revenu universel et j'aimais bien la taxation des robots.
Et alors, au deuxième tour, du coup, c'était Macron contre Marine Le Pen?
Oui, là, Macron, oui.
Mais t'as pas hésité?
Non, ah non, 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 sans hésitation.
Du coup, on arrive sur 2022, c'est dans quelques jours maintenant. Est-ce que tu as fait ton choix?
Compliqué. Et puis, je dois avouer que je regarde plus trop, là. Et ils sont nombreux, trop nombreux. Donc la dilapidation des voix fait que qu'est-ce qu'on fait? Enfin là c'est de la stratégie, quoi. Enfin, et moi je...
Est-ce qu'il y a déjà des candidats là dans cette élection pour lesquels tu ne voteras pas et voir qui t'inquiète?
Bien sûr, oui. Oui.
Alors lesquels?
Zemmour, Le Pen.
Tu les mets sur le même plan?
Enfin, ils vont faire la même chose, quoi. Enfin,
alors Pécresse?
Non, elle sera vraisemblablement... Enfin, voilà, elle ferait pas peur. Enfin, elle est un peu fade. Enfin, elle fera des trucs que j'aimerais pas. Donc,
les candidats pour lesquels tu pourrais voter, alors Hidalgo, par exemple?
Enfin, elle est inaudible. Enfin, elle a été un peu, enfin, dès le départ, un peu mise sur la touche. Et puis elle s'y est mise, vraisemblablement. Enfin,
tu pourrais voter pour elle?
Ouais, mais ça serait... Est-ce que c'est pas une voix en moins pour... Enfin, voilà, une voix en moins pour un vote, comme on va appeler ça, utile.
Roussel?
Il m'a bien plu. Et puis, je sais pas, il a eu une parole malheureuse une fois. Je ne sais... Mais que j'ai fait, ah ben non, c'est pas possible. Là. Je sais plus sur quoi. Mais ça m'a... Oups!
D'accord, alors on l'enlève. Ouais. Jadot?
Oh, ils se sont fait trop la guerre, les Verts. Ils se la font encore, quoi. Enfin... Pff. Ils sont pénibles. À se faire la guerre, bah, ils se divisent même quand ils ont un candidat.
Et alors, du coup, le candidat qui est le mieux placé à gauche, là, c'est Mélenchon.
Il est clivant. Il est clivant. Et même s'il a peut-être un peu adouci son discours par rapport à la présidentielle d'avant, il est clivant.
D'accord. Et Macron?
C'est là où c'est compliqué, quoi. Il surfe sur la vague de tout ce marasme, de toutes ces empoignades derrière. Donc, il surfe sur la vague.
Imaginons un deuxième tour Macron-Le Pen comme en 2017.
Il n'y a pas photo.
Ouais, tu y retournes sans hésiter.
Ben non, il n'y a pas photo.
Et s'il y avait Macron-Mélenchon?
Non, je pense que j'irais vers Macron.
Pour le premier tour, du coup, tu pourrais voter Macron, c'est ça?
Ben, oui, parce que... Oui. Mais encore une fois, c'est toujours cette espèce de il y a eu tellement d'écart.
Tu te positionnes à gauche, de gauche modérée.
Oui, toujours. Oui.
Est-ce que tu le vois comme un candidat de gauche modérée là aujourd'hui?
Moi, ce quinquennat, je l'ai pas. Tu peux pas satisfaire tout le monde, quoi. Et il y a des choses qui m'ont pas plu, ou pas forcément été dans mon sens. Mais après, ça n'a pas été catastrophique non plus. Et encore une fois, je pense que d'être, je pense que qui que ce soit élu, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il y a l'Europe, il y a le monde, on ne peut pas tout faire. Et puis il y a, voilà. Enfin, donc c'est pas évident. Et puis voilà, c'est pas évident. Donc je pense que beaucoup de ceux qui voudraient mettre en place leur politique dans leur programme, in fine, n'y arriveraient pas.
On va évoquer du coup des sujets qui font partie du débat public. Je voudrais d'abord te poser la question de ton rapport avec la religion ou les religions de manière générale. Est-ce que toi tu as une religion? Est-ce que tu es
Oui,
religieuse?
j'ai une éducation religieuse catholique, mais après, je ne vais pas dire que je suis athée, mais je ne suis absolument pas pratiquant et des fois, je ne me reconnais même pas de comment la religion est pratiquée dans les églises. Alors, oui, ça m'arrive d'y aller, mais
Tu vas pour des occasions spéciales?
voilà, et leur discours de temps en temps, enfin, de souvent me rebute. Ouais, ça peut être rebutant. Mais après, comme dans les hommes d'église, il y a des extrêmes. Hein. Enfin, ça va de.
Ok. Il y a une religion dont on parle beaucoup plus ces derniers temps, et notamment là, on en a beaucoup parlé pendant le débat présidentiel, donc c'est l'islam. Qu'est-ce que tu penses de cette religion?
Bah, c'est comme dans la religion catholique où il y a les extrémistes et puis il y a ceux qui le travaillent, les extrémistes de tous bords, et puis ceux qui le pratiquent de façon pour eux, enfin, de façon, enfin, avec toute la mansuétude et qui en suit. Donc,
Toi, c'est pas vraiment un sujet.
non, c'est le sujet, c'est malheureusement le radicalisme de certains, mais comme il y a du radicalisme catholique, il y a du radicalisme juif, du radicalisme.
Tu sais qu'on a beaucoup parlé notamment, et enfin on en parle depuis des années, la question du voile dans l'espace public. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu es positionné
Ben
ou...
ouais, moi j'ai la sensation que ça n'a pas lieu d'être. Comme là, je me suis aperçu, alors est-ce que j'avais fait attention ou pas, mais tous les mercredis, je vois des gens prier devant une croix vers Montassinos. Est-ce que c'est un lieu? Alors oui, certes, il y a une croix, mais est-ce que on est censé venir prier comme ça? Je ne sais pas.
La laïcité, c'est un terme,
Ouais, oui, voilà.
c'est quelque chose
Ouais,
auquel
ouais.
tu te sens attaché?
Oui, complètement. Mais voilà, ces gens qui prient devant cette croix à Montassinos. Enfin voilà, est-ce que eux ils vont décrier ceux qui pratiqueraient une autre religion dans la rue? Mais eux, enfin voilà, il faudrait leur poser la question.
Un autre sujet qui est aussi dont on a beaucoup parlé, c'est le sujet de l'immigration. Qu'est-ce que tu
Ben
penses de ce
ouais, a
sujet-là, toi?
priori, oui, alors, tous ceux qui fuient un danger, à mon avis, oui, non, il n'y a pas de. Il faut essayer de les accueillir et de bien les accueillir. Puis, mais les réfugiés économiques. C'est plus délicat. Il faudrait peut-être plus donner des moyens des pays d'où ils viennent. Je pense qu'il faut aller en amont et plutôt dans ces pays qui sont, ou en tout cas qui laissent à la marge une certaine population, bah c'est peut-être là-bas qu'il faudrait s'impliquer.
Autre sujet, l'écologie.
Alors, il y a la grande écologie qui se passe au sommet des États, où là, il faut qu'ils prennent des. Et puis, il y a l'écologie d'un tout un chacun. Mais effectivement, il semblerait qu'on ne puisse pas aller dans le tout venant comme on fait aujourd'hui, quoi. Donc,
Tu te sens écolo, toi, ou pas?
j'essaye d'appliquer certains principes à mon échelle, quoi. Je prends de plus en plus le vélo, je prends les transports en commun, mais bon, des fois, je prends la voiture.
Tu fais attention par exemple à ce que tu consommes?
Ouais, mais de façon, oui, ouais, sincèrement, oui. Au niveau alimentaire, oui. Mais de face, mais parce que c'est, et puis parce que c'est plus pratique. Moi, je préfère aller à l'épicerie à côté, qui est bio. Bon, il s'avère qu'elle est bio, mais ils sont très sympas. La boucherie en face, voilà. Moi, c'est le côté aussi très pratique.
Il y a eu aussi sur la question écologique, il y a le débat sur le nucléaire là actuellement.
Ouais, non, j'ai la sensation. Et puis on a été éduqués, nous. Enfin, en tout cas, ma génération avec le nucléaire, on l'a étudié à l'école, l'indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire. Enfin, donc, on est un peu, on nous a un peu orientés, et je le suis encore un peu. Ça serait top, hein, qu'on puisse trouver une énergie propre du jour au lendemain, mais c'est pas le cas. Donc,
Le système d'impôt tel qu'il est en France, hein, est-ce que tu le trouves juste ou injuste?
J'en paie. Il est compliqué. Là, je suis en train de faire ma déclaration. Là, c'est fou. Il faut simplifier la déclaration, en tout cas. Moi, je vois l'impôt comme les 15 jours où il faut que je fasse ma déclaration. Voilà, après, je suis ni. Enfin, je la trouve juste parce que je pense qu'il y en a certains qui ne le paient pas, et c'est très bien, et puis d'autres qui devraient en payer, qui ne le paient pas parce qu'il y a pas mal de niches. Donc, voilà, mais j'ai pas de.
Si la question de l'héritage là, qui a été un peu débattue ces dernières semaines, avec pareil des candidats qui ont dit qu'il faut taxer davantage les successions, d'autres au contraire qui ont dit non, il faudrait exonérer un peu plus de droits de succession. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette question-là?
Bah, je pense que, ouais, alors, quand on a des progénitures, on a envie de se projeter aussi pour elles et se dire que bah, travailler un peu pour elles, c'est pas mal, enfin, et de pouvoir leur léguer quelque chose. Donc, il faut un minimum quand même, je pense, de possibilité de léguer des choses. Après, oui, pour redistribuer la richesse, que ça retombe dans le panier global, il faut une réversion, mais il faut laisser de la possibilité. Parce que ça peut être motivant aussi pour les parents de travailler. Enfin, ça peut être une motivation.
Autre sujet, la question des services publics.
Est-ce que... moi, là, je suis à fond pour le service public. Mmh. Et de la dématérialisation, j'en peux plus. Mais c'est mon côté. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas sur les réseaux sociaux et tout. L'ordinateur, c'est pas mon ami. Et j'en peux plus de taper des 1, des 2, des 3 pour avoir quelqu'un au téléphone et de ne pas avoir un contact physique avec l'administration, quoi. C'est insupportable. Tu vois, mes problèmes de déclaration d'impôt, c'est un peu ça. Hein. C'est quand il va, ils ne veulent plus te recevoir, tu dois les appeler, tu as un rendez-vous téléphonique. Non, mais on marche sur la tête. Mais il ne faudrait pas qu'on en arrive là encore plus, parce que là, au niveau de ce dont je parle, c'est déjà fini. Là. Ouais. Donc, j'en parle même pas avec l'école, l'hôpital.
La poste, par exemple.
La poste, des exemples de postes. Non, mais c'est à mourir de rire. Vous voyez, l'anecdote, je suis à la poste de Moguio. Il y a une vieille dame qui arrive. Ça fait une semaine que je dois venir, on m'amène. Et là, je viens vous déposer, ça a l'air important, d'une lettre qui est arrivée dans ma boîte aux lettres, qui n'est pas destinée à moi, mais... Je vous la ramène pour l'amener au destinataire. Et le postier, il fait, mais non, mais là, c'est pas nous, hein, il faut aller à l'AT. Nous, on est un peu banque postale. Non, mais on est à la poste, là, donc tu prends ton truc, c'est fini, tu dis même pas ça, ça m'avait paru hallucinant. Donc voilà, alors la poste, c'est parti aussi, c'est dommage. Mais c'est...
Du coup, tu le regrettes, ça, par exemple, que l'État, les 20-25 dernières années, ait vendu
complètement.
EDF, Suez.
Ah, ben, bien sûr. Ouais. Ah, mais ça, c'est un truc que je préférais voir arriver 5 personnes, je vais schématiser les choses, hein, 5 personnes chez toi. Deux qui travaillent et les trois autres qui regardent, plutôt que personne qui vienne chez moi, quoi. Et que je vais t'attendre 15 jours, 3 semaines. Je préférais vraiment que le lendemain, il y ait 5 personnes qui viennent. Donc, ouais. Non, là-dessus, le démembrement du service public et des grosses entreprises nationales, ça... Et parce que c'est pas... la population en pâtit à la fin, quoi.
Ces dernières années, il y a eu un mouvement social de grande ampleur, donc le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé au début et puis au fur et à mesure du mouvement?
Alors ça part de l'augmentation, je crois, du litre de gazole. Moi, je sais que j'ai jamais trop fait attention à ça, puisque bon, j'utilise pas ma voiture tous les jours, j'ai une moto qui consomme très peu. Et je fais partie des privilégiés qui fait qu'un plein, 4 ou 5 euros près, c'est pas mon... Voilà, j'avoue que je le sais pas. Donc, leur première légitimisation de leur mouvement qui était ça, était... bon, ok, je l'entends, mais j'entends qu'il y a une grogne. Et puis après, il y avait des revendications qui éventuellement étaient bien. Et puis après, c'est parti complètement en sucette, quoi.
Tu as eu de la sympathie pour...
Au tout début, peut-être. Mais après, quand vous voyez des blocages de ronds-points, vous empêchez des gens d'aller travailler dans leurs entreprises, dans leurs trucs. Enfin, à un moment donné, les antagonismes, ils étaient trop forts, quoi. Enfin, je sais pas, le gars qui pouvait pas passer et qui avait sa boulangerie à ouvrir... c'est lui qui fait le pain pour les amener sur le rond-point. Enfin,
t'en as rencontré des Gilets jaunes ou est-ce que t'es...
J'ai été pris une fois dans un rond-point où ils ont commencé à vouloir parler, mais quand Tu sentais dans leur discours de l'agressivité. Je comprends que des fois la violence fasse avancer les choses, mais là c'est devenu un trop grand blouby-boulga, quoi. Et donc à la fin ils étaient inaudibles.
Les manifs en centre-ville,
Ouais.
tu les as vus?
Ah bah j'habite au centre-ville, donc.
Ça aussi, du coup, ça te dérangeait?
Et je trouvais que c'était un peu, à un moment donné, il fallait trouver peut-être une autre façon de manifester et pas le Saint-Hypernel qu'on voit dans Montpellier en l'occurrence ou dans d'autres villes.
Alors, il y a des gens qui ont parlé notamment des violences policières.
Ah, moi, je sais que quand j'ai eu participé à quelques manifestations étudiantes, il y a une vingtaine d'années, déjà on en parlait, mais pour y avoir participé, une fois que, enfin, j'ai des souvenirs, une fois que vous sentiez que la force allait vous prendre le dessus, bon, on décampait, enfin, voilà, on avait manifesté, etc. Et ceux qui restaient, ils étaient là pour en découdre. Alors, qui est provoquant, qui provoque qui? Voilà. Pendant les films Gilets jaunes, j'ai vu des pavés lancé par des gens, ils n'auraient jamais lancé un pavé. Un gros pavé, le mec, il réalisait pas ce qu'il faisait. Il y a un pavé, et le gars qui allait se prendre ça sur le casque, ça faisait mal.
Est-ce que tu penses que, il faut améliorer le système tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce que tu penses plutôt qu'il faut changer radicalement le système?
Voilà, c'est compliqué. Non, dans le meilleur des mondes, ouais, il y a plein de choses à améliorer, mais bon, après, on peut pas contenter tout le monde, quoi. Enfin, donc.
Est-ce que tu es plutôt pessimiste ou optimiste quant à l'avenir du monde?
À mon échelle, je pense que ça va bien se passer. Mes enfants, les petits-enfants, ça sera peut-être plus compliqué. Ou alors, on va trouver de façon. La recherche aura fait qu'on va retrouver une énergie facile et non polluante, que on va trouver des traitements pour tout le monde. Enfin, voilà. La modernité va peut-être entraîner des facilités. Mais qu'il y ait des choses à améliorer, c'est certain. Et qu'il y ait des choses qui vont se dégrader, pour le moment, on est dans une phase un peu de dégradation.
Quand tu as répondu à notre test, tu es arrivé dans la catégorie qui s'appelle les sociaux-républicains. Est-ce que ça te parle?
Oui, social, enfin, ben, voilà, moi je vais aider. Enfin, j'aime à penser que tout le monde doit être. Amener vers le haut, enfin, de façon en étant aidé, en étant. Et puis, enfin, voilà, qu'il y ait une sécurité minimum et maximum pour tout le monde, sécurité de vie, enfin, qui englobe tout, hein, et qui n'est pas de laisser pour compte. Et donc, et ça en va avec la républicain, parce que, bah, ouais, dans un certain ordre, même si j'aime des fois en sortir. Mais quand j'en sors, j'essaye de ne pas faire chier les autres.
Ok Bruno, merci.
Ouais.
C'est fini.
Ok.
Merci à toi.